On en jase le midi, nouvelle émission avec Jeff Fortin et Pascal CV. On a beaucoup de plaisir à parler d'actualité avec vous. Vous avez énormément de plaisir à interagir avec nous. 418-971-1021. Je sens que le sujet des prières dans les rues ne vous laisse pas indifférent. David qui écrit « Moi, ma religion, c'est la musique. Je peux pas aller jouer de la guitare électrique ou du drum n'importe où dans la rue ou devant un édifice public. » Ben, c'est la même chose pour la religion. Faites ça à l'endroit prévu pour. En effet, ça se joue dans un studio ou, David, des fois dans des bars ou dans des salles de spectacle. Qu'on aime aller à des spectacles rock ici à Boulevard. Je vous rappelle également, on est sur twitch.tv/blvd/fm, disponible sur la web radio blvd.fm et vous pouvez réécouter justement les meilleurs moments de nos émissions. Et aussi, on est disponible sur l'application Boulevard 102, App Store et Google Play Store. Il est présentement 13h08, c'est l'heure d'aller rejoindre un chroniqueur que vous allez entendre avec nous deux fois par semaine. Un homme que j'adore avec son franc-parler et qui est toujours, justement, à l'affût de l'actualité. Lambert Drainville, comment ça va, mon chum?
Salut, Jeff. Salut, Pascal. Comment vous allez?
Salut.
Très content de me joindre à l'émission.
Eh oui, on va super bien. Lambert, je pense que tu as écouté notre entrevue avec Ruba Gazal. Qu'est-ce que tu en penses, justement, de Ruba Gazal et surtout son positionnement sur les prières de rue?
J'en pense évidemment que les prières de rue, c'est un enjeu qui est très polarisant. Voilà. C'est un classique de wedge politics. Puis tu vas avoir Québec solidaire puis évidemment le gouvernement de la CAQ qui vont être diamétralement opposés sur cet enjeu-là. Je pense que la vérité se trouve un petit peu entre les deux. Là, peu importe le discours que l'un ou l'autre de ces partis-là va prendre. Évidemment, par rapport à Mme Gazal, là, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu là. Pour ce qui est de la CAQ, c'est de dire que, justement, les prières de rue, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et à laquelle il faut s'attaquer avant que ça devienne un enjeu qui, justement, prend plus de place. Moi, je pense que pour vivre à Montréal, bien honnêtement, je n'en ai jamais vu. J'ai jamais passé devant une prière de rue et j'y habite quand même depuis un bon moment. Fait que la vérité doit se situer entre les deux. Là, il y a certainement eu peut-être, il y en a peut-être plus qu'il y en avait avant. De là à dire que c'est un enjeu sociétal sur lequel le gouvernement doit mettre du temps et mettre dans le haut de sa liste de priorités. Je pense qu'on rentre dans ce cas-ci beaucoup plus dans la catégorie de « ça va mal à la choppe
du gouvernement
de la CAQ » et on cherche des enjeux pour aller marquer des points.
C'est cool. J'aime beaucoup ton opinion, toi qui as fait partie justement de plusieurs caucus parlementaires. Lambert, on saute dans le vif du sujet avec la commission Galant. Tu veux nous faire entendre des extraits. On commence en ouverture par le mea culpa de François Legault. Lambert Drainville, l'essentiel du problème vient des dirigeants de la SAAC. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de François Legault?
Ouais, ben on s'en est un petit peu parlé la semaine dernière, là, puis on a un autre extrait peut-être qu'on pourra faire jouer aux gens plus tard là, sur la chaîne de responsabilité.
Oui, les fameux quatre niveaux de responsabilité, là.
Exact. En commençant par, tu sais, dans la chaîne de responsabilité au niveau gouvernemental, au haut de la pyramide, tu as évidemment le bureau du premier ministre, son directeur de cabinet et le secrétaire général qui est le Manitou de toute la fonction publique. Dans un deuxième niveau, tu as les ministres avec aussi leur propre directeur de cabinet et leurs sous-ministres à eux pour leurs différents ministères, leur branche de fonctionnaires. Dans un troisième temps, dans une société d'État ou parapublic comme la SAAQ, eh bien là, tu as le conseil d'administration qui est un petit peu le chien de garde, justement, des différents projets, des dépassements de coûts, de l'évolution des projets. Et finalement, tu as toute la direction de la SAAQ. Moi, je le vois un petit peu, la part de responsabilité, je la vois un petit peu dans ce sens-là. Si tu prends la pyramide puis tu la mets à l'inverse, ceux qui sont les deux mains dedans, les plus près de ces décisions-là, ce sont évidemment les dirigeants de la SAAQ. Et par la suite, plus on s'éloigne, ben plus, je te dirais, la part de responsabilité de chacun de ces niveaux-là va en baissant. Donc, les deuxièmes, selon moi, qui sont responsables d'en être arrivés à un fiasco de cette envergure-là, c'est évidemment le conseil d'administration en un deuxième temps après les dirigeants.
Ça, le conseil d'administration, Lambert, là, je trouve que dans la commission Galant, on l'a effacé assez rapidement. On parle des dirigeants de la SAC. On parle des ministres. Mais moi, pour siéger sur des conseils d'administration, là, notre responsabilité première, c'est de s'assurer que les finances de l'organisme aillent bien. Donc, ils ont complètement failli à leur tâche, le conseil d'administration.
Oui, puis on verra ce que le commissaire insère dans son rapport final. La vérité, là, c'est que les quelques fois, en fait, ça a beaucoup plus fait parler lors du début des audiences. Conrad Sioui, ancien président du CA, était venu témoigner notamment. Bien honnêtement, un chevreuil sur l'autoroute. Ce conseil d'administration-là. C'est comme s'il n'y avait comme rien de plus à dire. Là, ils n'étaient pas là. Quand ils sont là à la commission à témoigner, ils disent qu'ils ne sont pas là. Quand on entend d'autres personnes, disons, se prononcer sur le travail qu'ils ont fait, ben, ce qu'ils disent, c'est qu'au final, ils n'ont rien fait. Fait qu'à un moment donné, je pense que quand
tu n'as
pas fait
grand-chose... Corrige-moi, mais on les paye, ces gens-là.
Tu as été mauvais, ben voilà, tu as été mauvais, il n'y a rien à dire de plus.
Mais on les paye, ces gens-là, pour être sur ces conseils d'administration-là. Ils ne sont pas bénévoles comme moi que le patron Charlebourg.
Non, ils sont certainement pas bénévoles comme toi. Oh, patron Charlebourg, d'ailleurs, bravo pour ton implication.
Merci.
C'est une belle, c'est une belle mission. Non, puis écoute, le PM a mis beaucoup l'emphase sur l'imputabilité. Hein? Mm-hmm. Quand même écorché ses ministres au passage, là, ne s'est pas défilé quand il parlait d'imputabilité, a parlé de l'imputabilité des membres du gouvernement, mais mettait d'abord et avant tout l'emphase sur l'imputabilité. On va devoir trouver une façon, bref, de rendre ces hauts dirigeants-là, ces conseils d'administration-là, qui, malgré qu'ils ne soient pas élus, demeurent payés par les fonds publics. Il faudra les rendre plus imputables. Moi, je pense que ça va être la grande conclusion de cette commission-là. Il faut trouver une façon à ce que ces gens-là soient plus imputables. C'est pas normal que tu aies des gens qui, sur, écoute, plus que 10 ans, ou deux gouvernements, plusieurs ministres qui sont passés l'un à la suite de l'autre, que ces gens-là n'aient été absolument incapables de simplement avoir un plan B, un plan C, si jamais la mise en place du site SACLIC finissait par vraiment être une catastrophe comme ça l'a été. Et là, ces gens-là perdent leur job, mais ils ont une sécurité d'emploi que leur garantit leur poste de haut dirigeant, se retrouvent finalement à juste être envoyés ailleurs. Ils les prennent de la SAQ, ils les envoient à Hydro-Québec, ils les envoient dans plein d'autres, à Investissement Québec, à la
chaise de l'incompétence.
Exact.
Tandis qu'au privé, tu perds ta job.
Quand
tu es au privé, tu perds ta job, tu la trouves toi-même, ta prochaine, on te repositionne pas. Lambert, on parle d'imputabilité. François Legault est un des premiers à dire ben moi, je vais mener ceci à terme, on va trouver qui est le coupable. Mais il se déchausse beaucoup par rapport à ses propres chaussures là-dedans, en se disant c'est pas moi, c'est vraiment ministre, mais encore là, point de personne. Comment on va faire? Ma question est super simple. Là. Qu'est-ce qui sera de l'imputabilité à faire pour la suite des choses?
Tu veux dire pour le premier ministre?
Ça va être quoi la solution?
Ben moi, je pense qu'il n'y aura pas une solution, au même titre qu'il n'y a pas un ou deux responsables dans ce fiasco-là. C'est un paquet de gens étalés sur un paquet d'années. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui n'ont pas été vigilants, qui n'ont pas été diligents, qui n'ont pas posé assez de questions, qui se sont contentés de semi-réponses. Et comme je disais tantôt, ben les quatre niveaux de direction, les quatre niveaux responsables de la gestion de l'État québécois, eh bien, ont tous leur part de responsabilité à un plus ou moins gros niveau. On verra quelles sont les grandes conclusions du commissaire Galant dans tout ça. Mais si tu veux parler spécifiquement du bureau du premier ministre, ben eux, moi, je pense qu'ils sont ils sont allés témoigner, mais je pense que dans la chaîne des responsabilités, comme on parlait plus tôt, T'sais, autant qu'ils sont les premiers de la chaîne que dans la gestion de ce fiasco-là, je pense pas que c'est eux qui sont les grands responsables. Je pense que, bon, comme les ministres, il y a quand même eu des indices là, qui ont été envoyés au PM. Là. Il y a eu un courriel, un tweet de Mitch Garber a par la suite demandé à son attaché de presse, Evan Sove, d'aller chercher l'information sur tout ce qui était le coût de sa clique. Après ça, il y a eu des articles du 98.5 qui parlaient de 69 millions de dollars supplémentaires en 2023. Après ça, dans le Soleil, 39 millions supplémentaires. T'sais, il y a eu des indices qui auraient pu inciter le premier ministre à dire hey, c'est quoi là, cette affaire-là? Je peux-tu avoir le détail de ça? Et il ne l'a pas fait. Alors, il n'est pas blanc, plus blanc que blanc, mais il n'est pas le premier, moi, dans ma chaîne, disons, dans les responsables de ce fiasco-là. Puis il l'a admis lui-même, ça ne l'intéressait pas. Lui, M. Legault, là, ce qui l'intéresse, c'est Hydro-Québec, c'est la Caisse de dépôt, c'est l'Investissement Québec, c'est les portefeuilles économiques.
C'était Nordvolt, on va en parler dans quelques instants.
Il doit faire un sapristi de saut, par exemple, à quel point ce qui ne l'intéressait pas est devenu très intéressant, malheureusement pour lui.
Clairement.
Là, j'ai l'impression qu'il s'y intéresse beaucoup plus.
L'envers, on écoute justement la remarque finale de François Legault hier à la commission Galant. J'ai toujours dit que des commissions d'enquête, des fois, ça donnait des rapports qui sont tablettés et qu'on ne suit pas par la suite. Mais je pense que peu importe le prochain gouvernement, l'imputabilité va devenir un mot de plus en plus en vogue au niveau gouvernemental et ça va juste être positif pour les citoyens et l'argent public.
Absolument. C'est une grosse remise en question de... T'sais... Où est-ce que va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Puis peut-être un certain wake-up call, si tu me permets l'expression, pour tous les gens impliqués à gérer l'argent des contribuables, de comme, hey, c'est pas normal. Là. Quand on parle de 10 millions de dépassements là, pour avoir été au gouvernement, tu sais, 10 millions de dépassements, ça n'allumera pas un voyant rouge sur le tableau de bord. Mais là, on parle de montants qui sont quand même significatifs. Puis quand tu les additionnes, on parle d'au-dessus de 100 millions, d'au-dessus de 200 millions. Puis évidemment, là, au grand total, on est à 1,5 milliard. Il faut que ces gens-là soient conscients que c'est de l'argent durement gagné par les Québécois et qu'ils ont un devoir de l'investir le mieux possible. Et surtout pas de l'acheter par les fenêtres comme ce qu'on voit avec sa clique.
Lambert, toi qui as été dans le gouvernement, là, Mathieu Marcotte, qui est l'animateur du retour sur notre station, sur les ondes de notre station sœur, Week-end 91.9, dit souvent, on parle tellement de milliards à cette heure qu'on dirait que des millions, c'est plus rien. C'est tout ça qui arrive au gouvernement? Tu sais, quand on parle de 100, 200, 300 millions, bof, c'est pas grave parce que je gère des portefeuilles de milliards de dollars?
Un petit peu. La vérité, c'est que oui, tu sais, tu gères des millions et des millions. Ça se compte toujours en millions. Fait que t'es toujours dans l'ordre des millions en termes de grandeur. Fait que des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Tu sais, à un moment donné, tu perds un petit peu le fil, tu sais. Puis on l'a vu dans d'autres dossiers, là, tu te rappelleras la subvention pour les Kings de Los Angeles. Tu sais, c'était pas un gros montant.
C'est vrai, hey, juste 7 millions.
C'est ça, 5 à 7 millions. Ouais. Pis,
qui n'était pas écoute, nécessaire, là, qu'il serait peut-être venu sans ça même, puis qui était déjà financé au final. T'sais, c'est épouvantable.
Ben, tu sais, il y a un petit peu de comme... Bon, il y avait deux choses dans ça. Il y avait le moment, là, on rentrait dans les négociations avec des centaines de milliers d'employés de la fonction publique à qui on obstinait de ne pas vouloir augmenter trop leur salaire à cause des finances d'État. Puis en parallèle, tu t'en vas financer des joueurs professionnels.
Puis tu te donnes une augmentation de 30 % aussi. Là. Il y avait tout ça dans l'air.
Il y avait tout ça, tu sais, puis... fait que, tu sais, ça, puis ce sont des symboles. Puis la politique, moi, je l'ai toujours dit, c'est un sport de symboles. Puis les Kings de Los Angeles, c'était un symbole d'à quel point le gouvernement peut être parfois déconnecté des besoins de la population. On a eu Nordvolt, qui est un bel exemple aussi d'un autre symbole où c'est un gouvernement qui se présentait comme les maîtres de l'entrepreneuriat, les maîtres de l'économie. On fait cette annonce-là de Nordvolt avec tambour et trompette. C'était le plus gros projet d'investissement privé industriel de l'histoire du Québec. Et là, ça fait patate. Sa clique est un autre symbole, encore une fois, de problème de gouvernance, de problème d'usage des fonds publics, de problème d'imputabilité, comme on le disait. Et c'est ça qui fait mal. Ce ne sont pas juste est-ce que ce dossier-là a été bien géré ou pas. Ce sont devenus des symboles. les gens associent ces dossiers-là à la performance du gouvernement. Et c'est pas pour rien que présentement la CAQ est au bas dans les sondages. Les symboles négatifs s'accumulent et sont extrêmement frappants.
Parlons-en de Northvolt. Hier, on a décidé de se retirer complètement de ce projet-là à l'approche d'un remaniement ministériel du côté de la CAQ. Bonne décision, mais le mal est fait, je dirais ça comme ça.
Ouais, et puis écoute, faut pas... Entre toi et moi, il ne faut pas être un génie des communications pour comprendre la stratégie qui a été employée hier.
Attends
là.
Une minute. Attends, c'est un mot qui commence par D, Pascal. Il y a un I après, un V. Diversion!
Ouais, diversion. Puis la question se pose, Jeff, c'est-tu une stratégie de diversion pour camoufler la présence du PM à la commission Galant ou si la commission Galant est une diversion pour le écoute, le
hey, c'est-tu la preuve que ça va mal pour la CAQ, ça? Si on ben est écoute, rendu que non. Le passage historique du premier ministre à la commission Galant sert de diversion au projet de Northvolt, c'est que là, ça va plus bien pantoute.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a l'expression qui dit « une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule ». Laisse-moi te dire que hier, c'était le cas et c'était voulu par les équipes de communication du bureau du premier ministre et des différents cabinets ministériels impliqués.
Ça, t'as aucun doute là-dessus. Là.
Ouais, il y a absolument aucun doute. C'était voulu. Quand tu te dis « ça va mal à la shop », ben, on va s'arranger pour que toutes les nouvelles... À un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Fait qu'on va toutes les mettre en même temps puis on va espérer que les deux viennent bouffer l'attention médiatique, s'auto-cannibaliser. Et ben le but de la CAQ dans tout ça, effectivement, c'est de passer à un autre appel le plus rapidement possible. On parlait la semaine passée, Jeff, de prorogation, on parlait ouais. du remaniement. C'est des choses que le gouvernement qui sont en latence au gouvernement parce que c'est une façon pour le premier ministre de se donner un nouveau départ. Mais tant et aussi longtemps qu'on a les deux pieds dans la mélasse avec une jambe dans la mélasse de Northvolt puis une autre jambe dans la mélasse de la commission Galant, ben c'est difficile d'avancer. Fait que là, la commission Galant, les acteurs politiques sont passés, ont témoigné. Je pense que ça va s'éloigner tranquillement du gouvernement de M. Legault. Northvolt, on vient de mettre la clé dans la porte hier et leur but à eux, c'est de sortir la tête de l'eau le plus rapidement possible pour essayer de se donner une chance, d'avoir une chance en 2026.
C'est pour nous, on essaie même d'y croire, parce que j'imagine, puis on a la tête, le cerveau, les mains, tout ce que tu veux, au professionnel, même au personnel, parce que ça nous intéresse là-dedans. Les gens qui nous écoutent en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont surdosés, et ils vont retenir en finalité que ça sert à rien, puis finalement, les gens en politique, au ministère, puis même dans tout ce qui est gestion gouvernementale, ben il y aura jamais de conséquences, puis on dépense comme on veut l'argent des contribuables. Je ne suis même pas certaine que la rétention va se voir au niveau du contribuable dans l'intérêt qu'on donne à la commission Galant. Il n'y a plus aucune adhésion à ça, ce genre de commission-là. Les gens ont perdu espoir puis trouvent ça, somme toute, assez stupide qu'on puisse répéter qu'on ne s'en souvient pas pour essayer de s'en échapper. Assurément, il y a des choses qu'on ne se souvient pas pour vrai, mais vous comprenez la stratégie derrière ça. Les gens plus d'intérêt. On le voit au 88-971-1021 sur Twitch. On est tanné, on n'y croit plus, puis les pas de conversation sont fermés, là.
Ouais, ben, tu sais, j'en conçois, puis je pense que Jeff, on s'en parlait hier au téléphone. Je pense qu'on est une minorité, là, à suivre ça de très près. Moi, j'ai quand même pas mal de gens qui me textent, là.
Hey, moi, ma blonde qui n'était pas politisée, écoute avec intérêt la commission Galant.
Mais c'est-tu parce que tu y en as parlé? Puis là,
oui, ben c'est sûr que là, t'es. Puis elle écoute Boulevard 24 heures sur 24 et on est une radio d'actualité, donc c'est sûr que ça la met au courant. Ben oui, c'est né de ça. T'sais, quand t'entends ça, tu t'intéresses, t'entends des bons acteurs politiques comme Lambert Drainville, justement, sur les ondes de Boulevard 102.1. Ben là, c'est clair que t'es intéressé.
J'ai la tête qui passera plus dans la porte.
Ben, je le sais.
Les gens qui nous écoutent, êtes-vous encore là-dedans? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait encore un pourcentage de règlements de comptes gouvernementaux pour la suite des choses? C'est une question qui est quand même importante.
Oui, bien, tu sais, bon, le rapport du commissaire va dresser les grandes lignes, puis après ça, tu sais, Pascal, il y a quand même des ministres qui doivent être stressés présentement. Mm-hmm. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas de conséquences, là, je veux dire. Geneviève Guilbeault était vice-première ministre, c'était la deuxième personne la plus importante au niveau de l'État. Je serais très, très surpris qu'elle le soit encore après le remaniement. Elle aura subi les conséquences. Moi, François Bonnardel, si j'étais lui, je serais stressé de son poste au Conseil des ministres. Le PM les a quand même écorchés hier en disant que les ministres des Transports sont responsables. A dit qu'il fallait de l'imputabilité. Ben moi, si je suis lui et que je veux envoyer un message, justement, que... Ouais. Je vais être le premier à montrer l'exemple. Je fais sentir ces conséquences-là.
Mais tu as été dans les corridors. Tu as été stratège politique, Lambert. Tu connais la politique pour toutes les raisons qui se valent dans ta vie. Mais est-ce que c'est-tu en surface de congédier un ministre ou de faire une démotion ministérielle? Est-ce que c'est en surface ou c'est vraiment l'épicentre du problème? Parce qu'on a l'impression que c'est plus dans la gestion, les gestionnaires en dessous, ceux qui travaillent au sein du ministère, les fonctionnaires.
Mais tu sais, c'est pour ça que cette commission-là est importante. Tu sais, je veux dire, elle va nous forcer à nous poser des questions puis à voir. Après ça, c'est au gouvernement d'agir. Tu sais, je te cacherai pas que M. Legault, il en avait parlé de l'imputabilité. Il était le premier à monter dans les brancards quand il était dans l'opposition puis dire ça n'a pas de bon sens, la gestion libérale, les manigances, les magouilles. Puis là, se retrouve lui-même 7 ans plus tard après avoir été nommé premier ministre, un peu dans des dossiers qui ont des odeurs assez similaires. Je peux comprendre les gens d'être désabusés. Mais que veux-tu? Moi, je reste positif puis je me dis, regarde, il y a eu la commission d'enquête, il va y avoir un rapport puis ce sera la responsabilité des gouvernements qui vont se présenter, des partis qui vont être en liste pour être le prochain gouvernement dans les élections qui sont dans à peine un an, les prochaines élections dans à peine un an, bien de dire, écoutez, nous autres, si on est élus, votez pour nous autres puis on va s'arranger pour faire le ménage dans ça. Je comprends les gens d'être un peu cyniques, mais moi, j'essaie de rester positif dans tout ça puis de me dire, ben écoute, il y a des gens quand même qui vont subir les répercussions de ça. Il y a quand même l'UPAC enquête quand même présentement là, sur des gens. Là, fait qu'il peut y avoir des conséquences au niveau judiciaire, il peut y avoir évidemment des conséquences au niveau, comme on disait, là, du poste des ministres. Puis, tu sais, ça fait mal quand même, là, Pascal. Imagine, là, t'es une personne comme Geneviève Guilbeault là, qui a été là depuis des années, qui a été une fidèle acolyte de François Legault, qui a été au front pour plusieurs dossiers, le troisième lien, le tunnel, un paquet d'affaires. Et là, ta fin de carrière politique, possiblement, se termine de cette façon-là. C'est t'sais, je ne peux m'empêcher que d'avoir un petit peu d'empathie. Là. Ça doit être très difficile pour ces personnes-là. Mais que veux-tu? T'es ministre, t'as un job, puis t'as mis ta face sur un poteau, t'as donné ton nom. Ça vient avec des grandes responsabilités. C'est un grand privilège, ça vient avec des grandes responsabilités. Malheureusement, on peut pas dire qu'ils ont fait un travail qui a été excellent dans ce dossier-là. Et ils en paient le prix aujourd'hui.
Vous allez l'entendre 2 fois par semaine dans l'émission On en jase le midi avec Jeff Fortin, Pascal CV, Lambert Drainville. Merci pour cette excellente analyse de la commission Galant du dossier Nordvolt. Et on se reparle le vendredi. Tu n'auras pas l'opportunité de parler avec Pascal. Par contre, elle va prendre un petit congé. Ce sera moi et Mathias qui seront présents vendredi. Merci Lambert pour ta collaboration à cette émission. C'est très, 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 très apprécié.
Hey, merci beaucoup. On se parle vendredi. Pascal, profite bien de ton congé.
Merci.
Merci, Lambert. On se laisse, Pascal, avant de passer à la pause. Il faut absolument que je vous fasse jouer François Legault à son annonce de Nordvolt, comment il était heureux et fier. Et par la suite, on va parler d'un dossier, je sais, qui te touche énormément, c'est-à-dire cette fillette de Granby, rapport de la coroner Gamelle aujourd'hui. Donc, on se laisse avant la pause avec François Legault lors de son annonce Nordvolt.
Nordvolt va construire une usine